Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute. Je vous invite à prendre vos Bibles. Ce livre extraordinaire que nous avons reçu de Dieu, sa révélation pour apprendre à le connaître, à nous connaître. Et nous allons aller dans trois livres de la Bible aujourd'hui. Le premier sera dans les Proverbes. Ensuite, nous irons dans 1 Timothée et dans Philippiens. Comme ça, vous savez déjà où nous allons. Et nous commençons par le livre des Proverbes au chapitre 17. Et nous entendrons le verset 17 et ensuite les lectures suivantes. Donc, Proverbe 17.
Donc, la première lecture dans les Proverbes, chapitre 17, verset 17. L'ami aime en tout temps, et un frère est là pour aider dans la détresse. On va juste tourner quelques pages en arrière dans nos Bibles. Proverbe 5, les versets 1 à 14. Proverbe 5. Proverbe 5, verset 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Tends l'oreille à mon intelligence, afin que tu gardes la réflexion et que tes lèvres retiennent la connaissance. Car les lèvres de la courtisane distillent le miel, et sa parole est plus douce que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. Aiguë comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Elle ne considère pas le sentier de la vie, ses routes s'égarent sans qu'elle le sache. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des discours de ma bouche. Éloigne d'elle ton chemin, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ton honneur à d'autres, et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien, et du produit de ta peine dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de la faim, quand ton corps et ta chair se consumeront, et que tu ne dises « Comment donc ai-je pu haïr l'instruction ? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande ? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient ? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu de l'assemblée et de la communauté. » Et maintenant, on va aller dans le Nouveau Testament, dans l'Épître à Timothée, 1 Timothée, au chapitre 6. 1 Timothée 6, les versets 6 à 12. 1 Timothée 6, 6. Certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce que l'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Comme aussi, nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et une dernière lecture dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4. Versets 11 à 13. Philippiens, chapitre 4, versets 11 à 13. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Jusqu'ici les lectures pour ce matin.
Merci. Depuis la chute, l'homme est plongé dans la solitude loin de Dieu. L'impureté envahit nos cœurs et le mécontentement est devenu naturel. Si nous voulons comprendre la parole de Dieu, qu'elle soit appliquée à nos vies, nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit qui rétablit la communion avec Dieu, nous purifie et nous fait entrer dans le contentement. Nous comptons donc sur l'œuvre du Saint-Esprit encore ce matin. Aujourd'hui, nous allons terminer ensemble une série sur le célibat. Dans cette série sur le célibat, nous avons déjà eu 3 parties. La première, c'était le célibat dans l'Ancien Testament. La deuxième, le célibat dans le Nouveau Testament. La troisième, le célibat avec des fondements de vie, c'était la dernière fois. Et nous avons particulièrement parlé ensemble du sens de la vie, du royaume dans lequel nous vivons et de l'ouverture à la relation. Et aujourd'hui, eh bien, le titre sera ou est le célibat avec des défis de vie. Le célibat et ses défis, si vous voulez. Et comme cela a été annoncé lors de la dernière prédication, il a été souligné que le célibat amène des défis particuliers en lien avec la solitude, avec l'impureté et le mécontentement. Nous allons donc parler de 3 sujets importants aujourd'hui. Les points seront ceux-ci. Le premier, la solitude et la communion. Le deuxième point sera l'impureté et la pureté. Et le troisième point, le mécontentement et le contentement. Il est clair que bien d'autres sujets pourraient être abordés, mais ces 3 sujets me semblent être des clés importantes dans le cadre de la situation du célibat. Or, comme nous l'avons constaté aussi la dernière fois, ce ne sont pas des sujets qui touchent uniquement les célibataires. Donc, si vous êtes marié, eh bien, vous pourrez aussi faire le lien avec votre situation. Mais dans cette série, la prédication est généralement appliquée aux célibataires, avec de temps en temps des petites parenthèses que je ferai quand même pour les personnes qui sont mariées. Nous commençons avec ce premier point, la solitude et la communion. Alors, je suis conscient que le sujet de la solitude est délicat parce qu'il a déjà amené beaucoup de souffrance. Bien des personnes qui vivent dans une situation où il y a de la solitude souffrent. Ce n'est pas un sujet facile. Et la solitude est une tentation plus grande encore pour ceux qui vivent seuls. Alors, quand je parle de solitude ici, je ne parle pas du fait de prendre du temps seul pour méditer, par exemple, ou pour prier, comme Jésus, qui se retrouverait seul. D'ailleurs, ce n'était pas vraiment de la solitude, puisqu'il cherchait une communion avec Dieu. Je parle en fait de la solitude comme isolement social, n'ayant pas de rapport avec autrui, avec un sentiment souvent lié à l'abandon ou au rejet. Mais j'aimerais souligner un fait très important. Le fond, la racine, le fondement de la solitude qui fait souffrir. Donc là, il faut tout de suite être avec moi maintenant. Parce que là, il y a un élément vraiment important. La solitude n'est pas le fruit du célibat. C'est le fruit du péché. La solitude n'est pas le fruit du célibat, c'est le fruit du péché. Quand Dieu a créé Adam, il n'a jamais expérimenté la solitude dans le jardin d'Éden. Oui, il est vrai qu'il a été créé avant Ève, mais Adam jouissait d'une relation pleine et sans ombre, une amitié avec Dieu. Oui, il est vrai que Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Mais ça venait pas d'une demande d'Adam qui ne se rendait pas compte de cela. Il n'était pas dans la solitude, il était en parfaite communion avec Dieu. Oui, Adam n'a pas trouvé d'aide qui fût son vis-à-vis parmi les animaux, mais il n'est question nulle part qu'il était dans la solitude. Dieu a créé Ève comme aide et vis-à-vis d'Adam, car il n'était pas bon qu'il n'ait personne comme lui. C'est aussi une manière pour Dieu de créer l'homme à son image, homme et femme. Il les créa, puisque lui est formé de 3 personnes avec la même nature. La création d'Ève n'est donc pas la réponse à la solitude d'Adam qui se morfondait dans son jardin, Non, c'était afin qu'il puisse avoir une aide et un vis-à-vis. Et depuis Adam et Ève, eh bien, beaucoup de personnes sont nées et ainsi beaucoup de vis-à-vis sont autour de nous. Donc la solitude qui fait souffrir est apparue lors de la chute et pas avant. La solitude qui fait souffrir est apparue lors de la chute. Lors de la chute, la communion avec Dieu a été brisée. La communion avec le vis-à-vis a été anéantie et même la relation avec les animaux a été faussée d'ailleurs. La solitude qui coupe des autres, qui se morfond et accuse les autres de ne pas rompre sa solitude, celle-là vient de la chute, du péché. Cette solitude peut être vécue par les célibataires qui sont parfois plus tentés de s'y jeter parce que personne n'est attaché à leur côté. C'est vrai, quand on rentre à la maison, qu'on est seul. Mais sachez que cette solitude, même les personnes mariées peuvent la vivre. Même s'ils ont de nombreux enfants, on peut s'en sentir très seul dans une foule. Donc si la solitude n'est pas le fruit du célibat mais du péché, le remède n'est donc pas le mariage mais la rédemption en Jésus-Christ avec qui nous pouvons retrouver la communion avec Dieu qui amènera aussi la communion avec d'autres. En fait, Christ a pris sur lui la solitude conséquence du péché alors qu'il a été fait péché pour nous à la croix au moment où il a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là, c'était la solitude qu'il a pris sur lui pour que nous ne soyons plus jamais dans cette situation-là. Il a vécu la solitude qu'aucun enfant de Dieu ne devra jamais vivre. Il a été abandonné de tous ceux qui étaient même autour de lui les plus proches. Il a été abandonné de tous afin que ceux qui croient en lui ne le soient plus jamais. La solution à la solitude est donc le rétablissement des relations que Jésus effectue. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le service de la réconciliation. Vous reconnaissez là 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est réconcilié n'est plus solitaire parce que Dieu est solidaire avec lui. Celui qui est réconcilié avec Dieu n'est plus solitaire parce que Dieu est solidaire avec lui et il entre en réconciliation avec ses semblables. Oui, c'est vrai que le célibataire qui est seul a besoin de faire des efforts relationnels. Les relations ne nous tombent pas dessus. Mais mes chers frères et sœurs célibataires, pour les mariés, c'est la même chose. Celle qui est célibataire a une plus grande disponibilité pour aller voir quelqu'un pour accueillir. Car il ne faut pas tenir compte de l'emploi du temps de l'autre ou de ses préférences ou qui veut absolument rester que les deux. Le célibataire peut aller sans ces situations-là. Un célibataire me disait d'ailleurs qu'il peut faire une quantité de visites qu'il ne pourrait pas faire en étant marié. Mais un célibataire doit être conscient de son besoin relationnel, de son besoin d'avoir un vis-à-vis. Mais tout comme pour le couple, il ne faut pas attendre des autres ce que Dieu peut donner. Si seulement il venait me voir, si seulement il s'occupait de moi, si seulement il pensait à moi. Mais Jésus-Christ est là. Et il a dit « Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et j'aimerais ici parler un petit peu, et je vous avais annoncé déjà la dernière fois, un peu des amitiés qui est un don que Dieu donne pour nous permettre de comprendre la communion. Alors je vous recommande chaudement, il y a 4 articles que Joël Favre a écrits sur le sujet de l'amitié spirituelle sur le site toutpoursagloire.com, donc je vous invite à les lire, ils sont utiles et édifiants. Je donne juste les titres, comme ça, ça vous donne un petit peu l'envie. Premier, c'est « L'amitié spirituelle, une relation trop souvent négligée ?» Point d'interrogation. Deuxième article, « Pourquoi avons-nous besoin d'amitié spirituelle ?» Le troisième, de quelle manière se manifeste concrètement l'amitié spirituelle? Et quatrièmement, comment tisser et entretenir des amitiés spirituelles? J'aime le livre des Proverbes, il dit beaucoup de choses et on en a lu un verset tout à l'heure qui est particulièrement fort par rapport à l'amitié. Proverbe 17:17, ça c'est facile à s'en souvenir. Hein. L'ami aime en tout temps. C'est extraordinaire. L'ami aime en tout temps et un frère est là pour aider dans la détresse. J'ai été touché par le témoignage de Sam Albury qui a écrit le livre « 7 mensonges sur le célibat ». Il nous fait un peu entrer dans ses amitiés qu'il vit. Et c'est intéressant, il y a un ami qui lui a même donné la clé de sa maison pour qu'il puisse venir quand il voulait. En fait, il faisait partie de la famille en tant qu'ami. Et pour lui, qui était célibataire, c'était d'une valeur énorme. Cet ami lui a même, de temps en temps, confié le fait d'aller chercher ses enfants à l'école. Il n'aurait jamais pu le faire autrement. Puis l'ami dit, mais est-ce que ça ne te pose pas de problème? Il dit, non, mais je suis heureux, je peux le faire. Il pouvait aller poser des questions, qu'est-ce que tu as fait à l'école, etc. C'était par amitié qu'il pouvait vivre cela, qu'il pouvait vivre la famille. L'amitié est particulièrement importante pour les célibataires. Alors c'est vrai, il existe plusieurs sortes d'amitié, on est d'accord. Hein, et c'est important qu'il y ait plusieurs sortes, il n'y a pas de problème. Il y a les amitiés superficielles. Ne dites pas c'est mauvais les amitiés superficielles. Elles existent. C'est lorsqu'on a des intérêts partagés. Vous allez au foot, y a plein d'amis. C'est des amis superficiels, mais c'est bien d'avoir des amis aussi qui sont là, qu'on connaît, des connaissances. Elles sont importantes pour nos liens sociaux, notre tissu social. Il y a les amitiés qu'on appelle fonctionnelles, celles qui sont en lien avec le contexte où l'on travaille, où l'on vit, des amis de voisinage, etc., qui sont aussi importants. Et il y a ce que l'on pourrait appeler l'amitié spirituelle, celle qui repose sur un engagement mutuel à suivre Jésus-Christ. En fait, dans l'amitié spirituelle, nous incluons toujours Jésus comme troisième ami. J'ouvre ici une petite parenthèse. J'aimerais aussi dire que c'est important pour les personnes mariées d'avoir des amis dans la foi. Chaque mari devrait avoir quelques amis avec qui il peut tout partager et avec qui il est en communion. De même que chaque épouse. Cela évitera que le couple ne se renferme sur lui-même et ne mette tout le fardeau relationnel sur l'autre pour répondre à ses besoins. Mais j'aimerais souligner quand même fortement une chose, c'est que l'époux ou l'épouse est et doit rester le meilleur ou la meilleure amie prioritaire pour tous les sujets et exclusif dans l'intimité sexuelle, évidemment. Je referme la parenthèse pour les couples. Et je reviens vers l'amitié pour les célibataires avec un autre proverbe que j'aime beaucoup, c'est le proverbe 27, verset 9, où il est dit « L'huile et le parfum réjouissent le cœur ». Et la douceur d'un ami vaut mieux que les conseils qu'on se donne à soi-même. Ça, c'est juste... J'aurais presque envie de faire une prédication là-dessus. Mais non. C'est phénoménal. Qui vous parle le plus? C'est vous-même. Même que maintenant que je prêche, vous êtes en train de vous parler. Peut-être heureusement que je n'entends pas. Mais vous vous parlez. Et ici, il dit la douceur d'un ami vaut mieux que les conseils qu'on se donne à soi-même. C'est magnifique ce qui est dans ce texte. La bienveillance, le conseil, la franchise, la vérité, la joie d'être soi-même, de ne pas jouer un rôle pour être accepté, pouvoir tout partager dans la confiance, c'est entre autres cela, l'amitié. Jésus parle de l'amitié à ses disciples. Il dit dans Jean 15, au verset 15, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis parce que je vous ai appris de mon Père, ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Un ami, c'est un confident, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance et qui a confiance en nous. Un ami, c'est quelqu'un de loyal, ça c'est un mot important dans l'amitié. Un ami, c'est quelqu'un de loyal, avec qui nous pouvons avoir une intimité sans aucune connotation sexuelle, mais qui n'est pas moins qu'une profonde communion. C'est regrettable qu'on doive le préciser aujourd'hui. Mais c'est important, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on parle d'intimité, ben la sexualité, elle fait partie. Mais mes chers frères et sœurs, l'intimité peut être vécue sans la sexualité. Et il peut y avoir des amitiés extrêmement profondes. C'est d'ailleurs ce que David voulait dire lorsqu'il parle de son amitié avec Jonathan. Lorsque ce dernier est décédé, il en parle. « Je suis dans la détresse à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu m'étais si cher. Ton amour était le plus merveilleux encore que l'amour des femmes. » L'amitié permet aux célibataires de goûter à des relations très proches, tout à fait saines et pures. Je me suis amusé à chercher ce que les gens pensaient sur l'amitié. Je donne quelques citations que je trouve sympas, parce qu'elles relèvent quelques éléments forts. L'amitié double les joies et réduit de moitié les peines. Un ami, c'est quelqu'un qui sait tout de toi et qui t'aime quand même. Choisis tes amis avec soin. Ils seront le parfum de ton chemin de vie. Ou pas un parfum, bon, ça c'est, je rajoute. Et dernière citation, l'amitié, ce n'est pas être ses amis quand ils ont raison, c'est être avec eux même quand ils ont tort. Quel bienfait d'avoir des amis à qui l'on peut s'ouvrir, parler, sans crainte d'être jugé et rejeté. Alors, je suis conscient que j'ai que touché quelques éléments de ce sujet, mais j'espère que chacun a compris que le célibat n'est pas la cause de la solitude, même si c'est une situation où il est plus facile de vivre la solitude. La solitude est le résultat du péché, et c'est Christ qui est venu nous délivrer du péché et de ses conséquences. Et qu'en fait, la communion avec Christ au centre est la réponse à la solitude et l'amitié est un don, un cadeau que Dieu nous fait justement dans ce cadre de du célibat. Passons maintenant au point suivant. On a vu que la solitude est une problématique. Une autre problématique, c'est l'impureté. On parlait d'impureté et de la pureté. Voilà pourquoi on a lu Proverbe 5, les versets 1 à 14. En fait, c'est un texte de référence pour la poursuite de la pureté. Donc là, je ne vais pas pouvoir maintenant faire toute l'exégèse et les applications, mais vous pouvez revenir à ce texte. Si vous voulez réfléchir à la pureté, ce texte, il est important. Vous savez que Jésus, à 30 ans, n'avait toujours pas eu de relation sexuelle et qu'il n'en a jamais eu de toute sa vie. Pour utiliser un terme connoté très négativement dans notre société, 30 ans et toujours puceau. Jésus était un homme vierge et il vivait sa chasteté. Pourquoi peut-on dire que Jésus était vierge? Eh bien parce qu'il ne s'est jamais marié et que la sexualité, selon la parole de Dieu, est uniquement vécue dans le cadre du mariage avec le respect dû à chaque partenaire. Jésus était vierge et n'en avait pas honte. Il était chaste et ne s'en plaignait pas. Il était puceau et pourtant c'était un homme totalement accompli, le plus accompli qui puisse exister. Ceux qui ne veulent pas vivre selon les directives de Dieu généralement se moquent de la virginité, de la chasteté et de la pureté sexuelle. Et pourtant, souvent, ils admirent ceux qui le vivent et ont envie de ce qu'ils ont perdu. C'est un principe souvent observé, en fait. Celui qui a pris de mauvaises décisions, qui en souffre, va laisser ou même pousser d'autres à faire les choix qui mènent aux mêmes conséquences, car cela ne le confrontera ainsi plus à sa faute, et celui qui a vécu la même chose n'est plus gênant, car il ne rappelle plus qu'il est possible de vivre autrement. Voilà une raison de la pression du monde impur à ne pas vivre la pureté. Mais vous savez, notre pureté ne découle pas de ce que les gens pensent. Elle découle de Christ. C'est lui la clé de notre pureté. C'est lui la clé de toute notre vie chrétienne d'ailleurs. Il nous enseigne sa pureté par ses paroles et ses actes. La sexualité est un don de Dieu pour le couple et doit être utilisé pour glorifier le Créateur, en ne reculant pas devant la responsabilité du fruit de l'amour partagé dans la sexualité, en étant tourné vers l'autre et non vers soi-même dans cet acte d'intimité particulier. Parce que toute activité sexuelle en dehors du mariage ne fait pas partie du plan initial de Dieu que nous retrouvons de manière condensée en Genèse 2:24. Vous connaissez tous Genèse 2:24. Voilà, j'ai pas besoin de le dire. Non, je vais quand même le dire, comme ça on s'en souvient tous. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, donc prendra ses responsabilités. Il s'attachera à sa femme, donc il fera alliance, et ils deviendront une seule chair. Ils vivront tout ce que signifie l'intimité. Toute activité sexuelle en dehors du mariage ne fait pas partie du plan initial de Dieu. Joseph l'avait bien compris. Lui, un homme d'une grande beauté, est courtisé par une femme riche. Elle lui exprime clairement ses intentions d'avoir des relations sexuelles avec lui. Un jeune homme célibataire, plein de vie. Voici ce qu'il répond, Genèse 39, verset 9. « Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'est rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme, donc de mon maître. Comment pourrais-je commettre un aussi grand péché contre Dieu ?» Joseph est conscient qu'avoir une activité sexuelle avec cette femme, sans qu'il vive dans une alliance, d'ailleurs impossible dans ce cas, se laisser au plaisir, aller au plaisir sensuel, est un péché contre Dieu. La femme devient insistante et développe toutes sortes d'artifices pour attirer Joseph à elle. Et un jour, Joseph fait un acte fondamental, un acte courageux, car en tant qu'esclave, il doit obéissance à sa maîtresse. Mais que fait-il ? Il fuit. Quel exemple ? Il dit, attends. D'habitude, quand quelqu'un fuit, ce n'est pas un exemple. C'est un exemple. Joseph ne fuit jamais devant une responsabilité. Il n'a fui devant aucune responsabilité. Mais il a fui devant l'irresponsabilité. Et ça, c'est un exemple. Il n'a fui devant aucune responsabilité. Mais il a fui devant l'irresponsabilité. Fuir l'immoralité n'est jamais mauvais. Mais Joseph ne fuyait pas nulle part. Il fuyait vers celui qui pouvait le garder. J'aimerais maintenant faire une déclaration que je ne peux pas trop développer à cause du temps, mais qui me semble importante à vous transmettre. Elle est contraire à ce que beaucoup vous disent, sinon la plupart de nos contemporains. Alors écoutez bien. Il n'y a pas besoin de pratiquer la sexualité pour être équilibré. Il n'y a pas besoin de pratiquer la sexualité pour être équilibré. En d'autres termes, la sexualité n'est pas un besoin fondamental de l'homme. La sexualité n'est pas un besoin fondamental de l'homme comme le salut, la respiration, la chaleur, le sommeil et la nourriture. Il est possible de vivre une vie équilibrée, en bonne santé, heureuse, sans pratiquer la sexualité. Jésus en est la preuve. Et c'est important pour les célibataires de le comprendre, de le saisir. Et que le célibataire ne pense pas que les personnes mariées n'ont aucun problème dans ce domaine. Que le mari ou l'épouse ne doivent jamais s'attendre, que le mariage enlève toute frustration. Vous êtes en plein rêve. Non. Ce n'est pas le mariage qui règle les frustrations sexuelles. C'est la rédemption. Et la sexualité est un cadeau bienfaisant pour les couples lorsque chacun vit pour l'autre et lorsque l'égoïsme est absent et que la recherche du bien de l'autre domine. La sexualité n'a pas été donnée pour moi, mais pour l'autre. Vous savez, il y a un fléau extraordinaire qui touche et qui a touché un très grand nombre de personnes. C'est la pornographie. Quelqu'un l'a surnommé l'art de l'autodestruction. Et cela ne détruit pas seulement celui qui s'y adonne. Non seulement cette peste stimule l'égoïsme, le désir de posséder, de manipuler et de tout contrôler pour son propre plaisir, mais cela fausse le regard, les relations et se coupe d'une relation intime tellement bienfaisante et totalement satisfaisante avec Dieu. C'est un leurre qui demande toujours plus et qui crée un vide toujours plus grand dans sa vie et autour de soi. Donc là, la chose que je peux vous dire, vous vous rappelez Joseph ? Fuyez l'immoralité. Fuyez l'immoralité. 1 Corinthiens 6, 18 le dit très clairement. Fuyez l'immoralité. Ne réveillez pas l'amour avant que vous ne puissiez la vivre dans l'alliance que Dieu vous a prévue. Là, je vais vous dire quelque chose que je dis souvent, je continue à le dire. Et dans ce domaine, c'est important. Nous débordons de ce que nous nous remplissons. Nous débordons de ce que nous nous remplissons. Et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne la sexualité. Nous débordons ce que nous nous remplissons. Si vous avez des romans à l'eau de rose qui vous poussent à un sentimentalisme que vous ne pouvez pas vivre, cela vous consume, vous rend amer face à Dieu qui ne vous permet pas d'assouvir vos désirs. Eh bien, jetez ces romans et nourrissez-vous de lectures qui vous rend joyeux et de donner l'amour que Dieu met dans vos cœurs par toutes sortes d'actions bienfaisantes. Vous savez, Paul savait que pour Timothée, ce jeune célibataire, tout ne serait pas facile dans les relations. Alors voici ce qu'il lui donne comme conseil. C'est dans 1 Timothée 5, où il parle des relations avec les autres, hein, avec les différentes générations aussi dans l'Église. Il lui dit, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Le jeune homme comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et les jeunes, donc les jeunes sœurs, comme des sœurs en toute pureté. Quel bienfait en tant que célibataire chrétien de pouvoir vivre des relations saines en toute pureté entre hommes et femmes sans aucune arrière-pensée. Et c'est ce que je souhaite pour toutes les personnes ici qui sont seules et les autres. La pureté ne nous fera jamais de mal. La pureté ne vous fera jamais de mal. Si le monde veut vous faire croire que la pureté sexuelle s'est passée à côté de quelque chose de beau, c'est un mensonge. L'impureté ne vous amène pas quelque chose de beau et de bon. C'est la pureté qui vous amène quelque chose de beau et de bon. Rappelez-vous que ce qui remplira vos arrière-pensées, qu'est-ce qui remplit vos pensées ? Et de quoi vous vous remplissez? C'est une clé importante pour répondre à la question de l'abstinence sexuelle, qui est une vraie difficulté, parce que les stimulations sont plutôt fortes, et on dit d'ailleurs que ceux qui ne vivent pas ça sont frustrés, même s'ils ne le sont pas, on le dit, vous êtes obligés de l'être. C'est de la tyrannie. La réponse à la frustration sexuelle n'est pas un partenaire, car ces frustrations ne sont pas en lien avec le bien qu'on pourrait donner à l'autre. Ces frustrations sont centrées sur nous-mêmes, en fait. La réponse à la frustration sexuelle, c'est trouver une plus grande joie dans la communion avec Jésus-Christ. Que les pulsions sexuelles fassent désirer une communion, c'est normal. C'est Dieu qui a créé la sexualité. Mais vous savez quoi, la sexualité pure nous permet de comprendre la jouissance d'une relation intime qui nous remplit de bonheur. Et vous savez quoi, c'est ce que nous vivrons sans fin avec Christ. Sans fin. Jésus est l'époux, ce sera le mariage éternel dans lequel nous entrerons. Car rappelez-vous, au ciel, il n'y aura pas de mariage les uns avec les autres. Nous serons tous célibataires au ciel. Mais nous jouirons éternellement d'une intimité qui nous remplira de bonheur de façon encore bien plus grande que ce que nous pourrions vivre dans les moments les plus satisfaisants dans la sexualité. C'est ça le ciel, c'est un bonheur extatique, fantastique. Dites, je suis un peu fou, je vais un peu loin. Pas grave. Moi, je sais que Dieu est plus grand que ça. Parce que c'est mieux encore. J'arrive pas à vous le dire vraiment le mieux possible. C'est encore mieux. C'est ça, le vivre avec Dieu éternellement. Et rappelons-nous ce que nous avons dit lors de la dernière prédication sur le sens de la vie. Il ne peut pas venir de nous-mêmes, mais d'un épanouissement dans l'intimité avec Dieu. Que celui qui comprenne, enfin, que celui qui peut comprendre, comprenne. C'est ce que Jésus disait. J'ai gardé cette belle activité, cette vertu, cette noble tâche, cette façon libérée de vivre pour la fin, pour nos derniers points, car c'est à mon avis une des clés les plus importantes pour une vie chrétienne dans le célibat épanoui. D'ailleurs, comme dans tous les autres états matrimoniaux aussi, c'est le contentement. Le contentement. Alors, le mécontentement et le contentement. Le texte phare dans la parole de Dieu à méditer à ce propos est bien entendu Philippiens 4, de 11 à 13, on l'a entendu tout à l'heure. Quand l'apôtre Paul dit « J'ai appris à me contenter dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est la clé. Selon la parole de Dieu, l'état, la situation, la circonstance ne sont pas les facteurs déterminants du contentement. Certains disent « content comme un petit enfant qui vient de manger ». Tu as entendu ça ?« Content comme un petit enfant qui vient de manger ». Ouais, mais enlevez-lui le biberon et vous verrez que, de quel type de contentement il s'agit. Il ne s'agit pas du contentement décrit dans Philippiens, mais d'un contentement qui dépend des circonstances. Si les circonstances sont favorables, les grands sourires se dessinent sur le visage du petit que certains vont même jusqu'à appeler chérubin. Mais s'il a mal aux dents, ou que sa couche est mouillée, ou qu'il ne peut pas continuer à manger le chocolat, le contentement n'existe même plus en fumée. Considérons donc un autre contentement, un contentement biblique. Imaginez une personne plus âgée, battue, mise en prison, et qui chante les louanges de Dieu en remerciant pour son merveilleux salut. Ça existe, hein? Enlevez le jeu favori de l'apôtre Paul et il trouvera sa joie en Jésus-Christ que personne ne peut lui ravir. Amenez-le où il n'aimerait pas aller et il priera pour vous en demandant la bénédiction de Dieu. Il l'a fait en nombreuses reprises quand il était en prison. Le contentement ne dépend pas des circonstances. Le contentement ne dépend pas des circonstances, il dépend de la source à laquelle vous allez puiser. Voilà de quoi dépend le contentement. Il dépend de la source à laquelle vous allez puiser. Voilà pourquoi Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cela signifie que je peux être content dans le célibat. Je peux être content sans enfant. Je peux être content dans tous les sens que vous pourrez mettre. Car je puis tout par celui qui me fortifie. Quelle bénédiction d'être entouré de gens contents. Les gens contents, c'est fabuleux, non? Moi, j'aime bien les gens contents. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils me poussent à la reconnaissance. Ils m'encouragent souvent. Ils voient la bonté de Dieu. Et ils acceptent qui ils sont. Ils acceptent même qui je suis. Ça, c'est assez fort quand même. Ils vivent dans la joie. C'est fabuleux, les gens contents. Vous êtes d'accord? Vous aimeriez bien être entouré de gens contents, non? Pourquoi ne pas être alors une telle personne? Nous-mêmes. J'aimerais vous raconter une petite histoire. Les enfants sont là, c'est aussi bien qu'une petite histoire. C'est l'histoire d'une petite fille. C'est l'histoire de Pollyanna, peut-être quelqu'un connaît. Une petite fille qui avait d'abord perdu ses frères et sœurs et même sa maman. Elle est restée tout seule avec son père, un pasteur fort pauvre. La seule chose qu'ils possédaient leur parvenait dans des tonneaux par le biais d'une mission. Mais ce qu'ils recevaient était souvent usé et de piètre qualité. Pollyanna rêvait tant d'une poupée que son père écrivait à cette mission s'il ne pouvait pas lui envoyer une poupée. Et au prochain arrivage, quelle déception. Il n'y avait pas de poupée, mais une paire de béquilles pour les enfants. Touché par le chagrin de sa fille, il lui dit « Il y a une chose pour laquelle nous pouvons nous réjouir, c'est que tu n'as pas besoin de ces béquilles. » Alors naquit le jeu du contentement. Dans les nombreuses situations difficiles qu'il traversait, il devait toujours trouver un moyen pour se réjouir. Alors, ça n'a pas été facile, parce que Pollyanna a aussi perdu son papa. Et elle fut accueillie par sa tante, qui lui a fait un accueil très froid. Et qui l'a mis au grenier, dans une mansarde. Mais ici encore, Pollyanna jouait à son jeu. Par exemple, dans sa mansarde, au mur sombre, il n'y avait pas de tableau. Mais Pollyanna était heureuse à l'idée que sa petite fenêtre donnait sur un paysage bien plus beau que ce qu'un artiste aurait pu peindre. Car c'était d'un tapis de verre et d'or, plus beau qu'une tapisserie due au plus habile tisserand. Et d'ailleurs, en passant, son tableau y changeait souvent en plus. Et Pollyanna enseignait son jeu de contentement à tous ceux qu'elle rencontrait et transformait petit à petit tous ceux qui vivaient à son contact. La femme de ménage qui détestait le lundi, qui était le jour de lessive, a commencé à se réjouir qu'il n'y avait qu'un jour de lessive par semaine. Et un jour, elle protestait, disait à Pollyanna, parce qu'elle avait beaucoup de contacts avec cette femme de ménage, qui était assez gringe d'ailleurs, puis elle disait, mais il y a vraiment... Franchement, elle l'a mis au défi. Hein. Elle a dit, mais Pollyanna, il n'y a vraiment rien de réjouissant dans un enterrement. Et la jeune fille lui répondit alors du tac au tac, mais si nous pouvons y être, c'est que nous pouvons être heureux que ce n'est pas le nôtre. J'ai appris à être content. J'ai appris à être content. Je puis tout par celui qui fortifie. En fait, c'est la base du jeu du contentement de Pollyanna. J'ai appris à être content. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est la base du jeu de Pollyanna. Et c'est aussi ce qu'un célibataire et les autres peuvent vivre, évidemment. Nous arrivons au terme de cette série sur le célibat. Or, j'espère que vous pourrez dire célibataire et j'en profite. Alors, non pas dans le sens d'un profit égoïste santé sur soi, hein, on veut tout de suite préciser les choses. Non, mais célibataire et j'en profite pour vivre paisiblement, avec passion, la vie avec Dieu, en mettant à profit les dons qu'il m'a donnés. Voilà. Célibataire et j'en profite. Célibataire et j'en profite pour vivre comme Christ. Face à la solitude, je cherche la communion avec Christ et avec ceux qui lui appartiennent, le remerciant pour les amitiés qu'il donne. Et là, mes chers frères et sœurs qui êtes mariés, n'oubliez pas les célibataires dans vos amitiés. C'est important. C'est aussi le fruit de l'Évangile, en fait. Puisque Jésus nous a réconciliés avec Dieu et avec lui-même, il nous réconcilie les uns avec les autres pour vivre ces relations fortes. Face à l'impureté, je chéris la pureté, sachant que je vivrai une jouissance bien plus grande et bien plus durable dans le ciel. C'est aussi le fruit de l'Évangile qui nous donne l'assurance de la vie éternelle, et ce n'est pas une vie terne, mais la plus heureuse que l'on puisse imaginer. Et face au mécontentement, je vais regarder au-delà des circonstances pour m'appuyer sur Christ et son œuvre. C'est aussi un fruit de l'Évangile qui nous aide à prendre le recul et nous réjouir du fondement solide sur lequel nous pouvons nous appuyer pour faire face à tous les orages de doute, parce que Christ est avec nous et on peut même jouer au jeu de Pollyanna. Connaissez-vous cet évangile qui nous guide vers Christ et qui nous donne justement tout ce dont nous avons besoin, qui nous réconcilie avec Dieu? Vivez-vous votre célibat à la gloire de Dieu? Je prie que cette petite série ait été utile pour faire un petit tour biblique sur le célibat et ainsi que quelques conseils découlant de la parole utiles pour vivre dans cet état matrimonial. Et j'aimerais maintenant encore prier tout particulièrement pour ceux qui vivent dans le célibat. Prions. Éternel notre Dieu, nous te disons merci parce que nous pouvons nous approcher de toi avec confiance. Seigneur, dans cette salle, il y a un certain nombre de personnes qui sont célibataires. En fait, tous ceux qui ne sont pas mariés avec une personne vivante sont célibataires. Tu les connais. Et j'aimerais te remercier pour chacun d'eux. Chacun est précieux, qu'il soit plus jeune ou plus âgé. Et j'aimerais te dire merci. Je ne peux pas maintenant nommer les noms de chacun, mais tu les connais. Et je te prie, Seigneur, de permettre à chacun de se rendre compte, ce matin, maintenant, que grâce à Christ et à son œuvre extraordinaire, il est la personne la plus précieuse qui existe au monde. Qu'il et elle est la personne qui est complètement accomplie, à qui rien ne manque. Et j'aimerais, Seigneur, te prier que chaque célibataire, enfant ou adulte, puisse se rendre compte que il ou elle est dans ta main. Tu connais l'avenir. Tu n'es pas surpris, tu sais si un jour il y a une rencontre qui se fera ou non. Et cela, Seigneur, eh bien, tu en donneras les forces, tu donneras les grâces. Nous savons, Seigneur, par expérience, que ce n'est pas facile de vivre dans ce monde, que notre cœur est tortueux, que bien souvent nos pensées ne sont pas guidées par ta parole, mais parce que le monde nous dit. Et j'aimerais, Seigneur, te prier tout particulièrement les pensées à chacun et d'ailleurs aussi aux personnes mariées, face à toute la torsion de ce sujet de la sexualité dans notre monde, qui fait que nous avons des pensées qui nous font croire que nous passons parfois à côté de choses alors que c'est de l'impureté, qui peut durer quelques minutes dans un état peut-être extatique qui peut sembler bon, mais qui est si court face aux conséquences dramatiques dans l'âme et parfois aussi dans les relations. Seigneur, j'aimerais te prier de nous garder tout près de toi. Parce qu'en fait, tout près de Christ et avec les pensées renouvelées par Christ, nous sommes heureux, paisibles, contents. C'est tellement bon d'avoir des gens autour de nous qui sont contents, Seigneur. Nous te disons merci pour chacun d'eux. Et nous te prions que nous puissions aussi être l'un d'eux. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.